On a vu que les Keynésiens, à l'aide d'un modèle fondé sur les imperfections du marché du travail et des titres, justifiaient en cas de chômage involontaire une relance budgétaire, le déficit étant financé par emprunt. Ceci ouvre à deux questions qui font l'objet de ce chapitre. Cette politique contre le chômage peut-elle être durablement efficace ? Puisqu'elle se traduit par un endettement de l'État, jusqu'où peut aller l'endettement de l'État ? Dès les années 60, les économistes monétaristes, emmenés par Milton Friedman, ont critiqué les politiques de relance keynésiennes, faisant remarquer, ce qu'admettaient d'ailleurs parfaitement les Keynésiens, que ces politiques se traduisaient par une inflation. Les monétaristes affirmèrent que les effets positifs sur le chômage d'une telle relance ne pouvaient être que temporaires. Ils seraient fondés en effet sur des signaux de prix du travail brouillés par l'inflation. Ainsi, au bout d'un temps, l'inflation qu'ils provoquent persisterait, car les salaires monétaires sont indexés sur elle, tandis que les effets sur le chômage s'estomperaient. Une nouvelle relance n'a de nouveau que des effets temporaires, mais augmente encore l'inflation. On finit par se trouver, compte tenu de ce que l'inflation perturbe l'efficacité économique, dans une situation de stagnation et d'inflation, la stagflation. Les monétaristes ajoutent qu'il existe un niveau de chômage structurel qui dépend de divers paramètres, dont la réglementation du marché du travail, et en particulier l'existence ou pas d'un salaire minimum, la nature des incitations à retrouver du travail quand on en a perdu. Pour eux, ce taux de chômage structurel, celui qui tient compte de ces rigidités, il ne sert à rien de vouloir le réduire par des relances budgétaires, sinon à relancer une inflation dangereuse et à accroître l'endettement de l'État. Si l'on estime ce chômage structurel trop élevé, il faut s'attaquer aux rigidités qui en sont la cause. Par exemple, flexibiliser le marché du travail pour réduire les différences entre ceux qu'on appelle les « insiders », ceux qui ont des emplois protégés par des CDI, et les outsiders, les précaires et les chômeurs, et ainsi augmenter la circulation entre eux. Ceci tout particulièrement quand le progrès technique exige une grande mobilité d'un secteur à l'autre, d'un type d'emploi à l'autre. Ensuite, assurer la formation des chômeurs pour favoriser cette mobilité. Augmenter les incitations à retrouver ou à créer de l'emploi en facilitant le statut d'auto-entrepreneur et en réduisant, voire pour les libéraux les plus radicaux, en supprimant les indemnités chômage et en les remplaçant par un impôt négatif universel, donc sans condition, filet de sécurité contre l'extrême pauvreté. L'impôt négatif permet aussi de supprimer tout salaire minimum sur le marché. C'est en effet l'impôt négatif qui le compléterait si ce salaire de marché descendait trop bas. De plus, plutôt que de relancer le PIB par la dépense publique, le courant libéral considère que la bonne politique est d'améliorer en permanence l'offre par des politiques publics comme la baisse des charges ou les crédits d'impôt pour la recherche et l'investissement, qui incitent les entreprises à investir pour abaisser leurs coûts et augmenter la qualité de leurs produits. Et ceci d'autant plus, évidemment, que la concurrence internationale est exacerbée et qu'il est vital pour la compétitivité du territoire de baisser ses coûts et d'innover. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Elle a donc deux dimensions. Sur le marché des biens, c'est ce dont nous venons de parler, améliorer la compétitivité de l'offre de biens et services. Et sur le marché du travail, elle préconise, on l'a vu, la réduction des rigidités empêchant le libre fonctionnement du marché du travail, et ceci afin de réduire le chômage structurel. Bien naturellement, ces préconisations sont controversées. Beaucoup se refusent à n'avoir le choix qu'entre chômage de masse et précarité croissante, et affirme que ce qu'il faut avant tout, c'est créer des emplois, dans la croissance verte en particulier, et quitte à réduire, si nécessaire, le temps de travail. De plus, les Keynésiens retorquent que toutes les mesures ci-dessus évoquées ne feront qu'augmenter les dividendes et ne se traduiront par aucun investissement si les entreprises anticipent que la demande ne sera pas là pour justifier ces investissements. C'est l'hypothèse keynésienne du rôle crucial des anticipations des entreprises dans la conjoncture. Dans ce cas, les politiques de l'offre ne servent à rien qu'à aggraver les inégalités entre les revenus du travail et les revenus du capital. Mieux vaut alors, selon eux, relancer par la dépense publique. En vérité, entre politique de l'offre et de la demande, la vraie question n'est pas de choisir, mais de les articuler correctement dans le temps. Et pour cela, il ne faut pas se tromper de diagnostic sur les causes du chômage. Quant à l'endettement de l'État, deux questions se posent si on la considère en dynamique. D'une part, sa justification du point de vue du critère du bien-être d'ensemble. Et d'autre part, sa soutenabilité pour les dépenses publiques. Nous avons vu, avec le modèle classique, qu'une dépense publique n'est justifiée que si les dépenses en biens publics sont plus désirées par les ménages que leur consommation privée, ou si les investissements publics sont socialement plus rentables que les investissements privés. Ce qui peut être le cas dans bien des domaines, l'éducation, la santé, les infrastructures et naturellement la fourniture de véritables biens publics purs. Le modèle keynésien ne nous dit absolument rien sur le sujet de la justification des dépenses publiques, car c'est un modèle de court terme. Il ne s'intéresse qu'à la circulation d'une dépense publique supplémentaire. Qu'il s'agisse de payer des gens à faire des trous et d'autres à les reboucher, ou d'investir dans l'éducation, l'effet immédiat sur le PIB est le même dans le modèle. Les Keynésiens admettront d'ailleurs sans aucune difficulté que les thèses classiques de la justification de l'investissement public sont justes. Et en conséquence, ils admettront que l'augmentation de dépenses budgétaires en période de chômage involontaire doit être compensée par des excédents budgétaires réduisant la dette publique dans les périodes de plein emploi. Sauf si les dépenses publiques ont pris la forme d'investissements dont la rentabilité sociale est supérieure à celle des investissements privés. Quant aux critères de soutenabilité de l'investissement public, c'est notre deuxième question. La dette publique est émise sous forme d'obligations du Trésor, achetées par des résidents ou pas, et en général gérées par de grands fonds de pension et des banques. Les investisseurs considèrent la dette publique comme un titre de dette ordinaire. Simplement, en général, les titres de dette publique sont moins risqués que les obligations d'entreprise, en général. Ainsi, la dette publique américaine est l'actif sans risque actuel, tandis que la dette publique vénézuélienne ne vaut simplement plus rien. Tous les titres de dette publique sont notés en fonction de leur risque de défaut. Le ratio observé par les agences de notation et les investisseurs n'est donc pas tant le ratio dette sur PIB qu'un ratio de solvabilité, qui est la capacité du gouvernement à dégager l'excédent budgétaire dit primaire, c'est-à-dire l'excédent budgétaire avant le service de la dette, pour assurer le service de la dette. C'est exactement le même genre de ratio qui est observé pour les entreprises. La capacité de leur cash flow à assurer le service de leur dette. C'est donc, répétons-le, la capacité des finances publiques à assurer le service de la dette publique qui est surveillée par les marchés, dit-on, c'est-à-dire par les investisseurs. En dépend naturellement le taux d'intérêt sur cette dette. Il en résulte que la dette publique peut croître tant que le service de cette dette se fait à un taux d'intérêt qui reste inférieur au taux de croissance des recettes publiques. En effet, dans ce cas, la part du service de la dette dans les recettes publiques ne croît pas. Le ratio de solvabilité stagne ou décroît. Et cela suppose que le PIB connaisse une croissance supérieure au taux d'intérêt de la dette publique, puisque les recettes budgétaires croissent avec le PIB. En revanche, si la capacité de l'État à servir cette dette commence à soulever des doutes auprès des investisseurs, a fortiori, si la note est dégradée par les agences, immédiatement la dette n'est refinancée qu'à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui accroît encore le problème de solvabilité. C'est un cercle vicieux qui conduit généralement à une crise. L'État doit renégocier le service de sa dette avec ses débiteurs, généralement organisé par le FMI et les trésors publics des pays qui détiennent le plus gros de la dette. La Troïka, dans le cas de la Grèce, par exemple. Ces débiteurs, contre le refinancement à taux raisonnable et à 3 ans des échéances immédiates de la dette, que le gouvernement n'est pas capable d'honorer. Ces débiteurs donc imposent au gouvernement des politiques visant à quoi ? Et tout simplement à dégager rapidement un excédent budgétaire primaire. D'abord et avant tout, ils imposent donc des coupes budgétaires. Celles-ci réduisent la dépense publique et donc la croissance. Et par conséquent, elles réduisent les recettes budgétaires. Un autre cercle vicieux, dont le pays ne sort qu'après des années de réformes et de restructuration dans la souffrance, quand ses débiteurs finissent enfin par annuler la dette. En effet, les gouvernements des pays dont les trésors l'ont presque entièrement racheté ont fini par estimer que le peuple du pays en crise et son gouvernement avaient bien compris la leçon. Et qu'on ne les reprendrait plus à consommer plus qu'ils ne produisent, raison de leur endettement excessif du passé.